Michel Kubler, vous venez de publier un hors-série sur un thème qui n'a peut-être pas la prétention de la nouveauté. Quel avenir pour le christianisme ?
Vous faites bien de préciser que c'est une question qui n'est pas nouvelle. Ça fait 2000 ans qu'on se la pose. Quel est l'avenir du christianisme ? Simplement, ce qu'il y a de nouveau par rapport à quoi ? Il y a une trentaine d'années, par exemple, on se souvient d'un livre de l'historien Jean Delumeau, « Le christianisme va-t-il mourir ?» On était inquiets, enfin, un certain nombre de gens chrétiens d'Occident. Je précise, l'enquête dont on parle là, de la Croix, qui a été publiée dans nos colonnes à la fin de 2007 et qui vient de faire l'objet, comme vous le dites, d'un hors-série. Donc on a tout repris ensemble pour permettre de bien mettre les choses en perspective. Là, l'enquête se dit non plus est-ce qu'il y a un avenir pour le christianisme ou est-ce qu'il va mourir, mais quel est-il cet avenir ? Alors, on ne fait pas de la futurologie à la Croix, et ce n'est pas le genre des chrétiens d'ailleurs en général, ça tombe bien, mais on essaye de voir quand même un peu de où on va, dans quel sens ça bouge. Alors, on a pas forcément inventorier toutes les pistes. On essaye de rendre les gens attentifs à des choses qui bougent dans le christianisme et particulièrement dans le christianisme occidental. Cette question vient d'une chose très simple. Quand on est responsable d'un journal catholique français et qu'on vient quelquefois, comme c'est mon cas, à Rome, à tous les coups, quand on traîne un peu dans les couloirs du Vatican, les gens vous disent « Oui, l'Église de France en particulier, l'Église d'Europe et d'Occident en général, il n'y a rien qui va. Vous devriez vous inspirer un petit peu de ce qui se passe dans le Sud ou à l'Est, ou oui, dans le tiers-monde, enfin, là où il y a des vocations, là où il y a des baptêmes, là où il y a plein de mariages religieux, là où les enfants catéchisés sont en foule, multitude, etc. Autrement dit, une espèce de faillite réputée du modèle chrétien occidental et l'impression qu'on va dans le mur, quoi. Qu'est-ce qui ne va pas ? Si vous regardez la manière dont la vie de l'Église est organisée dans beaucoup de pays en Occident, notamment en France, il y a une grande règle, c'est le rapetissement des communautés chrétiennes et donc des regroupements, des restructurations pastorales, les évêques s'arrachent les quelques cheveux qui leur restent en se disant comment est-ce que je veux pouvoir faire en fonction non seulement de la vitalité des communautés qui quelquefois justifie ces regroupements, mais aussi de la baisse des vocations sacerdotales qui les imposent. Sauf que à force de vous commencez par regrouper 3 paroisses, puis 10, puis 15, puis 20, à partir de 40, qu'est-ce qu'on fait, chef, hein? Et quelque part, c'est un peu une fuite en avant. Alors, je ne dis pas ça du tout pour me moquer des efforts qu'ils ont faits, mais pour mesurer que ça a quelque part quelque chose un peu de pathétique, parfois, quand on n'arrive pas à changer de modèle. Voilà.
Surtout que dans votre enquête, vous donnez la parole à certaines personnalités, dont Enzo Bianchi, entre autres, qui dit « La fin de la chrétienté est une chance pour le christianisme ». Ou encore Jean-Claude Guillebeau, « Le christianisme ne fait que commencer ».
Mais oui, c'est une phrase du père Maine, le père Alexandre Maine, prêtre orthodoxe russe qui a été assassiné dans les années 90 à Moscou. C'est vrai que quand on entend ça, la fraîcheur des commencements, des phrases comme celle de Jean-Claude Guillebeau qui est un converti ou un reconverti d'une certaine façon, puisqu'il est redevenu chrétien pour reprendre le titre de son livre, là, je trouve très intéressante la vigueur de la foi d'Enzo Bianchi quand il dit qu'il y a une chance à sortir de la chrétienté, parce qu'il dit en substance que jusqu'à présent on était chrétien. Maintenant, il s'agit de le devenir. Autrement dit, chacun de nous doit devenir chrétien. C'est pas il faut que le monde devienne chrétien, ou encore moins qu'il redevienne chrétien à la manière dont il l'aurait été pendant des siècles ou des millénaires de ce qu'on appelait la chrétienté. C'est-à-dire la chrétienté, un système où le christianisme, ses institutions, dictaient non seulement l'organisation de la société, mais souvent les valeurs dominantes des personnes, des groupes, des familles, etc. Où c'était un petit peu l'Église qui régentait la société. Ça, c'est un peu fini tout de même. Il s'agit maintenant de devenir chrétien. Non pas de refaire chrétien nos frères à la manière de l'Action catholique des années 1930. Ça, c'est un modèle qui est fini aussi, qui n'est plus de mise, mais d'apprendre que la foi, c'est quelque chose qu'il faut vivre chacun, qu'il faut acquérir à chaque jour, y compris quand on est chrétien patenté.
Alors, est-ce que ça serait plutôt un style d'église confessante ?
Alors là, il y a un vrai choix, si vous voulez. Une des découvertes, en tout cas des prises de conscience qu'on a vécues à la Croix, dans toute l'équipe de journalistes qui a animé cette enquête, c'est qu'effectivement, il y a deux grandes visions possibles de l'Église. C'est un vocabulaire qu'on n'a pas trop l'habitude de manier dans l'Église catholique, mais les protestants, par exemple, sont assez coutumiers de cette réflexion qui me paraît assez pertinente. Les deux modèles d'Église dont on parle, c'est d'une part ce qu'on appelle l'Église multitudiniste, c'est un gros mot, c'est l'église des foules, l'église tout terrain, l'église du tout venant. Non seulement tout le monde venait à l'église, ça c'est le système de chrétienté, mais où l'église était faite pour être disponible à tout le monde et il fallait investir toutes les énergies, il fallait disposer, concevoir les plans pastoraux pour cette disponibilité à tout le monde. Le presbytère est ouvert à qui le veut, les gens qui se présentent, qui veulent faire baptiser leur gamin, qui veulent se marier alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds chez vous, et bien vous les accueillez parce que l'église est là pour eux. Sauf qu'on s'aperçoit aussi que les quelques ressources pastorales qui restent, au niveau du clergé particulièrement, s'usent à répondre à cette demande cultuelle. Le nombre de prêtres occidentaux, en France particulièrement, mais pas seulement, qui s'épuisent à se sentir perçus comme des distributeurs de sacrements, se disent « on n'en peut plus, on veut des communautés où les gens soient convaincus et à partir de là, l'évangile pourra rayonner à nouveau. À partir de là, on peut relancer l'évangélisation. » Et ça, c'est ce qu'on appelle une église confessante, faite de gens qui affirment leur foi, qui la forment aussi, qui la réfléchissent, qui en parlent, qui en discutent. C'est pas des confessants au sens un peu excité, allumé. On n'est quand même pas tous des évangéliques, si vous voulez. Mais en tout cas, c'est vrai que le modèle évangélique est un peu provocant pour nous en Occident, parce que ce sont ces groupes-là qui ont le vent en poupe dans la sphère chrétienne. Les groupes chrétiens qui se développent le plus et de manière très spectaculaire en Occident aujourd'hui, ce sont les groupes évangéliques. Je dis, moi, que ce n'est pas totalement au hasard que ces groupes-là se développent à cette vitesse-là, y compris en recrutant des gens qui étaient des chrétiens, j'allais dire historiques, des catholiques de formation, de souche, des protestants, des gens qui avaient grandi dans une église de type multitudiniste, et la foi là-dedans s'étiole, ça devient un peu une chrétienté anonyme, et donc les gens ont besoin d'avoir une foi qui leur fasse du bien. Alors ça, on est en plein dans la postmodernité, là, hein. C'est l'individualisme et le besoin d'une religion qui fasse du bien. Mais je dis, après tout, pourquoi pas ? Jésus, il est venu en faisant le bien, dit l'Écriture tout de même. Hein. Il les guérissait, il les amenait à la conversion, au pardon, il les amenait à revivre, à naître à une vie nouvelle. Fondamentalement, c'est quand même ça, l'annonce de l'Évangile. Il faut qu'on trouve aujourd'hui, en Occident, les manières d'annoncer l'Évangile et de le vivre, bien sûr, comme quelque chose qui permet de vivre une vie nouvelle.
Jérôme Vigneault, qui est président des Semaines sociales de France, dit dans cette enquête « Dans 20 ans, le christianisme sera-t-il encore signifiant en Europe ? Est-ce qu'il comptera comme source d'inspiration dans la vie des peuples ?»
Alors, j'espère bien que oui. Simplement, on ne sait pas du tout s'il aura pignon sur rue comme il l'a aujourd'hui. La question de Jérôme Vigneault, je la reçois comme étant « Quelle sera la force de signification de l'Évangile dans 20 ou dans 50 ans dans l'Europe, par exemple ?» Personne ne peut dire si, effectivement, l'Évangile va sourdre par le bas, parce qu'il aura été réapproprié par des individus au sein de communautés modestes, simples, qui n'auront aucune prétention à avoir une surface sociale, à avoir une visibilité, etc. Mais à partir de là, l'Évangile pourra reprendre ressources, ou alors il y aura effectivement des valeurs issues de l'Évangile qui font partie du patrimoine commun, sinon de l'humanité, en tout cas de notre Occident, à partir duquel on continuera à faire référence à l'Évangile publiquement, mais par le haut.
Quel rôle peut jouer l'Église quand l'État ne l'écoute pas ?
On a remarqué aussi, on a été sensible dans notre enquête, là, dans la Croix, sur des postures très différentes qu'on peut observer au sein même de l'Occident, de la part des responsables de l'Église, particulièrement dans l'Église catholique. C'est assez frappant de voir qu'il y a une espèce de modèle méditerranéen. La posture, hein, comme on aime bien dire maintenant, de l'épiscopat italien, mais aussi de l'épiscopat espagnol, par exemple, est très frontale. L'Église doit maintenir les valeurs et doit les faire valoir et doit agir dans la société contre les projets de loi, militer, appeler à des manifestations. L'Église, comme institution qui veut garder la parole, garder une visibilité et pignon sur eux. Si vous mettez à côté de ça la posture des évêques français, par exemple, mais aussi allemands, mais aussi dans les pays de Belgique, de Hollande, etc., on est plus là dans la proximité, dans l'accompagnement. Les responsables de l'Église ont le souci d'accompagner les questions que se pose la société en faisant valoir les convictions chrétiennes. Il ne s'agit pas de mettre l'Évangile dans sa poche ou de cacher ses convictions, mais sans chercher l'affrontement forcément, parce que ce n'est pas forcément toujours le meilleur moyen de faire valoir le point de vue. Alors, il y a le droit de l'Église à dire son point de vue, et puis il y a la manière de le faire, le ton sur lequel on s'adresse. Peut-être que c'est une question de culture, tout simplement, et que ces évêques, qu'il s'agisse de ceux qui sont plus méditerranéens ou de ceux qui sont plus nordiques, disons, savent simplement être en phase avec leur peuple, avec la culture de leur nation, et qu'il en va bien comme ça. Après tout, je n'ai pas à juger de celui qui ferait mieux ou moins bien son travail. L'essentiel, c'est que l'Évangile soit annoncé. Le souci que j'aurais quand même, c'est de ne pas trop brusquer les gens contre l'Église, contre l'institution, à la faveur de combats sur des thématiques qui sont non pas dépassées, mais qui sont quand même régionales. Se battre sur certaines questions de société, c'est important, mais ce n'est pas le tout de l'annonce de la foi. Or, il y a un danger que l'ensemble de la foi soit récusé, l'ensemble du témoignage chrétien soit récusé, parce qu'on se braque sur des choses qui ne sont pas le tout de la vie.
Dans cette recomposition du paysage ecclésial, en Occident, en France, quel peut être le rôle de la femme ?
On a consacré une des semaines de notre enquête à non pas à opposer, mais à voir comment une église qui était jadis gérée par les clercs, c'est-à-dire par les prêtres essentiellement, sous la houlette des évêques bien sûr, on passe à une église de laïcs, non pas pour exclure les prêtres, mais parce que tout est en train de se recomposer. Alors, les laïcs ont une place très grande dans l'église, non seulement parce que le Concile Vatican II l'a voulu, mais parce que de fait, les laïcs ont investi fortement les responsabilités dans l'église, et particulièrement les femmes. J'observe simplement, à travers mon expérience personnelle, que parmi les témoignages pastoraux qui m'ont le plus frappé, le plus impressionné, il y a un bon nombre de femmes. J'ai moi-même été formé pendant ma formation, puisque vous savez que je suis prêtre, donc j'ai fait un stage diaconal dans une paroisse, avec bien sûr le curé de la paroisse, avec un vicaire, et avec une femme qui était permanente en pastoral dans cette paroisse. Je peux vous dire que c'est cette femme que j'ai le plus reçue en termes de sensibilité pastorale et de sens pastoral, même au sens le plus profond du terme. Et donc je trouve qu'on se prive de beaucoup de choses dans l'Église en laissant les femmes trop systématiquement à l'écart de responsabilité d'ordre ministériel. Je ne parle pas uniquement du ministère ordonné, qui est une question pour elle-même, dont on sait que pour l'instant elle est fermée pour le magistère catholique. Mais quand je parle de ministère, c'est un envoi dans l'Église pour le service de toute la communauté. Or, les prêtres en Occident sont majoritairement encore formatés pour résister à toute autorité qui n'est pas la leur, surtout si elle vient d'une femme.